Bonjour et bienvenue au sixième épisode du balado Affaires d'État des collines au tribunal, le balado des programmes de droits et politiques appliqués de l'État de l'Université de Sherbrooke. Je me nomme Léa, je suis étudiante de troisième année au baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Je suis accompagnée de Maître Côté, doctorant en droit et chargé de cours au baccalauréat en droit, ainsi qu'au cycle supérieur de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, nous recevons Maître Christiane Pelchat. Maître Pelchat est avocate en droit administratif et en droit à l'égalité. Avant d'entamer sa carrière juridique, Maître Christine Pelchat a œuvré en politique comme députée de la circonscription électorale de Vachon en 1985, pour ensuite être réélue en 1989. En plus d'avoir été déléguée générale du Québec à Mexico, Maître Pelchat a travaillé sur la scène politique fédérale, notamment à titre de directrice de cabinet. Aujourd'hui, elle possède une vaste expérience en égalité des femmes, en analyse différenciée entre les sexes et en analyse des politiques publiques. Elle aura mis sur pied et géré le programme de démocratie pour l'avancement des femmes au National Democratic Institute of International Affairs, consultante en bonne gouvernance et démocratie au Québec et à Haïti pour la coopération municipale canadienne. Maître Pelchat a également présidé le Conseil du statut de la femme du Québec de 2006 à 2011. Maître Pelchat étudie présentement aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke. Donc, sans plus attendre, nous souhaitons la bienvenue à notre invitée. Bonjour, Maître Pelchat.
Bonjour, bonjour.
Alors, Maître Pelchat, vous êtes originaire de Saint-Hubert. En 1981, vous obtenez un baccalauréat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Qu'est-ce qui vous intéresse à la politique à l'âge de 21 ans?
En fait, je vais vous dire que entrer à l'université à cette époque-là, pour les filles, j'ai terminé donc mon baccalauréat en sciences politiques. C'est la première fois qu'il y avait une cohorte de plus de 30 % de femmes à l'université. Alors, c'était une première. 30 % de femmes dans les classes à l'université, ça ne s'était pas vu. Alors, c'était une première. Donc, et les sciences politiques, pour moi, c'était... J'ai toujours été intéressée par la politique, par la force des choses. Dans ma famille, les gens étaient très engagés en politique. Et donc, je voulais étudier en sciences politiques pour en connaître un peu plus. Alors, et j'adorais ça. Puis, je vous dirais qu'en 1980, pour les gens qui s'en souviennent, il y a eu un grand référendum au Québec. Alors, c'est sûr que, étant étudiante en sciences politiques, on a été partie prenante à cette grande aventure. Donc, voilà. Mais j'ai pas fait sciences politiques pour me destiner à la politique. C'est un concours de circonstances qui a fait qu'après ça, je me suis lancée en politique.
En 1985, à l'âge de 25 ans, vous décidez de vous présenter comme députée de la circonscription de Vachon. Oui. Étant jeune vous-même, la représentation des jeunes citoyens à l'Assemblée nationale est un thème important pour votre campagne. Le remembrement des terres agricoles de Saint-Hubert l'est aussi. Si vous vous représentiez à nouveau comme député en date d'aujourd'hui, quels seraient les thèmes de votre campagne maintenant?
C'est certain qu'on ne parlerait pas d'emploi. Parce que aujourd'hui, on est en pénurie de main-d'œuvre. Quand je me suis présentée en 84-85, le taux de chômage chez les jeunes était de 25-30. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée en politique aussi, pour aller défendre les jeunes et l'accès au marché du travail, parce que c'était vraiment pas évident. Les portes étaient fermées pour les jeunes dans beaucoup de secteurs. Aujourd'hui, je vous dirais que probablement que la défense du droit des femmes à l'égalité et la défense, la protection du fait français seraient mes chevaux de bataille aussi. Oui, probablement que le droit des femmes à l'égalité et la défense du fait français seraient mes deux points probablement que je mettrais de l'avant.
Super. Donc, vous êtes élue députée de Vachon en 1985. On retrouve à l'Assemblée nationale 15 femmes sur un total de 99 députés. Comment décrivez-vous votre expérience en tant que jeune femme députée à l'Assemblée nationale à cette période?
Alors, je vous dirais que j'avais un double handicap. à la fois être une femme dans un milieu d'hommes,
ouais,
et être très jeune. J'étais la plus jeune, donc c'est, disons que j'ai brisé, fallait briser beaucoup de plafonds de verre, beaucoup de préjugés aussi. Les gens, l'ouverture face aux jeunes en politique n'était pas nécessairement évidente, et encore moins face aux jeunes femmes en politique. Alors, il a fallu que je fasse ma place à l'intérieur même du caucus des députés libéraux à ce moment-là. Donc, et la meilleure façon de faire sa place que j'ai remarquée, puis ça doit être encore la même chose, j'imagine, pour les nouveaux venus, c'est en étant très bien préparé, en connaissant ses dossiers et en, quand on défend... quand je défendais une cause, j'étais préparée, je savais de quoi je parlais et je disais pas n'importe quoi. Donc, j'ai acquis... j'ai gagné, je dirais, la confiance de mes collègues les plus vieux et les plus aguerris, ceux même des parlementaires qui étaient là depuis de nombreuses années. J'ai pu avoir leur confiance rapidement parce que j'étais très, très bien préparée. Mais c'était pas une mince affaire. Je me souviens qu'un des premiers discours que j'ai fait à l'Assemblée nationale, c'était justement sur la clause dérogatoire qui, avec le Parti québécois, se renouvelait, avait été appliquée de façon systématique à toutes les lois. Et le gouvernement nouvellement élu devait entériner ou pas cette utilisation systématique de la clause dérogatoire. Et j'avais fait un discours pour expliquer que je trouvais que c'était pas très démocratique et que je préférais la façon dont le nouveau gouvernement proposait de procéder. Et la personne qui a parlé après moi, la première chose qu'elle a dite, c'est « Bon, on voit bien, là, cette jeune femme-là fraîchement sortie de l'université, qui vient de nous faire un discours. » Et je ne le nommerai pas parce que c'est une personne publique. Puis... Mais c'était l'âgisme à ce moment-là. C'était très dirigé vers les jeunes. Alors, on essayait de nous discréditer parce qu'on était, des jeunes. Alors, mais oui, effectivement, c'était pas simple.
Non. Merci.
Poursuivons, donc, dans votre parcours politique, on arrive à un moment où ça commence à brasser beaucoup. En 1990, l'accord Meech, oui, celui-là, l'accord Meech, est rejeté, dont l'objectif était de faire adhérer le Québec à la loi constitutionnelle de 1982. Le mouvement souverainiste au Québec gagne alors en popularité. Et à la suite du rejet de l'accord du lac Meech, vous travaillez à titre de député du Parti libéral du Québec sur la commission Bélanger-Compo. Ouais. Décrivez-nous votre expérience à l'Assemblée nationale durant cette période, s'il vous plaît.
C'était une période... je vais vous dire que c'était un privilège pour moi d'avoir été nommé membre de la commission Bélanger-Campeau avec, Jean Campeau et Michel Bélanger qui présidaient cette commission-là. Je vous épargne les colibets sexistes dus à mon âge dont j'ai été l'objet plusieurs fois, mais ça a été un grand privilège pour moi de siéger à cette commission-là, qui a été une école pour moi parce qu'on a entendu des experts, des expertes de tous les horizons et de tous les domaines du Québec venir nous dire comment ils voyaient l'avenir du Québec, la place du Québec dans la Fédération canadienne, la place aussi des régions dans le Québec, la place des Autochtones aussi. Donc, ça a été une expérience... je vous dirais que ça a été un cours sociopolitique, l'équivalent d'une maîtrise probablement, pour lequel vraiment je serai toujours reconnaissante à Robert Bourassa. C'est lui qui m'avait nommé sur cette commission-là. Et je pense que la commission Bélanger-Campeau, quoiqu'on elle est peut-être un peu dans l'oubli aujourd'hui, mais a été quand même très importante pour affirmer certaines valeurs communes du Québec. Et ça a été une des premières commissions, ou en tout cas des premières déclarations adoptées par des membres de la société civile, des élus, des députés, Il y avait même des députés fédéraux qui siégeaient à la commission Bélanger-Campeau, où on a affirmé que l'égalité entre les sexes était une valeur commune du Québec, en plus de la promotion du fait français. Et l'autre élément important aussi, la laïcité de l'État. Donc, en ce sens-là, la commission Bélanger-Campeau, je pense qu'a contribué à mettre les jalons d'une certaine du droit un peu tel qu'on le vit, notamment le droit sur le droit à l'égalité au Québec. Et je pense particulièrement à la loi sur la laïcité de l'État. Alors, puis, ben, toutes les autres actions qui ont été faites dans ce cadre-là. Alors, j'ai été très, très, très privilégiée de siéger. Mais en plus, je siégeais sur le comité directeur de la commission, donc l'exécutif de la commission. Donc, j'étais associée à toutes les grandes décisions d'orientation de cette commission-là. Ça a été un moment... Vous me replongez dans des moments, des souvenirs qui me sont très chers, auxquels je n'ai pas l'occasion souvent de réfléchir, mais qui me réjouissent.
Eh bien, nous sommes tous réjouis et honorés que vous les partagiez avec nous. C'est très éclairant, non seulement d'un point de vue intellectuel, mais aussi profondément humain. Et à cette perspective, vous me permettrez de continuer. Donc, justement, dans le domaine du droit, après la commission Bélanger-Campeau, vous décidez de vous lancer dans les études de droit à l'âge de 34 ans.
Oui.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans les études de droit? En vous inscrivant à l'Université de Montréal, espérez-vous que vos études de droit vous permettront de faire avancer certaines causes qui vous tiennent à cœur?
Je vais vous dire que je suis arrivée en politique à un très jeune âge, mais mon projet avait toujours été d'aller faire mon droit après mes sciences politiques. Donc, à l'âge de 34 ans, je me suis dit, ben, il faudrait peut-être que si je veux faire mon droit, là, c'est quand même... c'est quand même... il faut que je le fasse à 34 ans. Je trouvais que c'était l'âge de retourner aux études. Après avoir fait 9 ans de politique aussi, je trouvais que... Je voulais pas nécessairement... j'avais pas... Mais c'est certain que le droit administratif, de par le fait d'avoir siégé 9 ans à l'Assemblée nationale, le droit administratif m'intéressait beaucoup. Le droit à l'environnement aussi m'intéressait beaucoup parce que j'avais été adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement pendant 4 ans aussi. Bien sûr, le droit constitutionnel était aussi un de mes intérêts, évidemment, par la force des choses. Mais je dois dire que j'aimais étudier, puis c'est pour ça que j'ai fait un retour justement aux études supérieures ici, à cette étape-ci de ma vie, parce que j'aime étudier, j'aime réfléchir. Et le droit, pour moi, c'était... C'était essentiel à la poursuite de ma vie, de faire mon droit. Et je ne le regrette pas. Je suis très, très contente de l'avoir fait.
On reviendra plus tard sur vos études que vous entamez encore aujourd'hui. Mais avant ça, au cours de votre carrière juridique, vous vous intéressez à l'aide humanitaire et à la défense des droits de la femme. Quelle est une des expériences les plus enrichissantes que vous avez vécues en relation avec ces intérêts?
Je vous dirais que probablement au Sénégal, entre 1998 jusqu'en 2002, j'ai eu le plaisir de travailler avec des femmes sénégalaises sur le terrain, et particulièrement à partir de 2001, à travailler avec des partis politiques pour... favoriser l'engagement des femmes en politique. Alors, nous avons fait, avec le programme que je dirigeais, le NDI, une grande campagne auprès des partis politiques pour avoir des femmes candidates aux élections municipales. Et ce programme-là a duré 2 ans jusqu'à l'élection. Et on avait réussi à faire élire beaucoup, beaucoup de femmes dans des communes. Je vous dirais que je pense qu'on avait atteint quelque chose comme 15 ou 18 %, ce qui était énorme. Hein? C'est presque de 0 % à 15 % 18 %. Donc, l'expérience de travailler avec ces femmes de toutes origines sociales, à les former, à rédiger des manuels pour les aider à comprendre qu'est-ce que c'était la politique municipale, qu'est-ce que c'était le rôle d'une élue municipale, C'était quoi le rôle d'un conseil municipal dans une commune? Comment on pouvait contribuer à changer les choses? Comment les femmes pouvaient contribuer à améliorer la vie de leurs concitoyennes? Je vous dirais que ça a été tellement touchant de travailler avec ces milliers de femmes-là. On a formé plus que 1500 femmes. Donc, et lorsque les femmes ont été élues aux élections, beaucoup d'entre elles m'ont remercié de manière très chaleureuse parce que on a le programme, ce qu'on a réussi à faire avec elles, c'est de leur donner confiance, les candidates. D'abord pour être candidate, parce que de se présenter comme candidate, et après candidate aux élections, deuxième chose. Puis après ça, on les a formées, on en a formé presque 750 comme conseillères municipales. Donc, wow. Le résultat de ces formations-là auprès de ces femmes engagées, la satisfaction d'avoir partagé avec elles des choses qui, pour nous, nous semblent à première vue très simples, mais pour elles, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et leur donner accès à ce savoir-là, ça a été pour moi une satisfaction incommensurable. Et encore aujourd'hui, 20 ans, 22 ans après, j'en retire encore énormément de satisfaction. Et j'ai même eu un message la semaine passée d'un jeune homme qui était un des leaders d'un parti politique avec lequel je travaillais. Qui est ailleurs au Burkina Faso, qui a rencontré un ami à moi qui était au Burkina, puis il m'a dit « Tu as travaillé avec lui quand tu étais au Sénégal à l'accession des femmes au pouvoir. » Et il dit « Voici le message. » Il a dit « C'est grâce à vous, Mme Pelcha, si vous m'avez donné, vous m'avez insufflé le goût d'engagement et de travailler avec de plus en plus de femmes. Et c'est grâce à vous aujourd'hui si je réalise ce que je fais. » Alors,
toutes mes félicitations.
Incroyable.
Je vous ai introduit aussi en parlant du National Democratic Institute, le NDI dont vous parlez, c'est ça?
Oui, c'est NDI, c'est National Democratic Institute. C'est une ONG américaine qui existe encore, qui travaille encore en droit démocratie, de la démocratie, bonne gouvernance et démocratie, et qui sont très, très axés, leur travail, sur l'accès des femmes à tous les postes de décision. Pour une réelle démocratie. C'est une belle organisation que j'aime beaucoup.
Donc, sur un autre sujet, en fait, vous êtes aussi présidente du Conseil du statut de la femme et déléguée générale du Québec à Mexico. C'est en quoi ces deux expériences sont très différentes?
Le président du Conseil du statut de la femme, en fait, on devrait dire président directrice générale, c'est un organisme conseil auprès du gouvernement du Québec qui est composé de membres de la société civile, des syndicats, des groupes de femmes, des groupes d'affaires, donc qui a comme mandat de conseiller le gouvernement sur toutes les politiques d'égalité entre les sexes. Donc, j'ai tenu ce rôle pendant 5 ans. Le Conseil existe depuis 1973 et on doit beaucoup de politiques publiques aux avis, aux recherches du Conseil. Tout ce qui a trait à les garderies, le congé parental, une partie de la loi 21 sur la laïcité, le droit des femmes... tout ce qui est le soutien à l'emploi, les grandes politiques publiques favorisent l'intégrité, l'intégration des femmes à l'emploi notamment, mais qui favorisent aussi, par exemple, beaucoup de politiques qui favorisent les hommes aussi. Par exemple, si on prend le congé de paternité, le Conseil, c'est lui qui avait suggéré que les hommes aient droit aussi à un congé de paternité parce que c'est démontré que les hommes qui prennent leur congé de paternité de 5 semaines, et là, c'est démontré maintenant, mais le Conseil avait démontré que c'est un pari d'engagement. Quand les hommes prennent leur congé de paternité, ils sont engagés de manière continue dans l'éducation de l'enfant et donc aussi, ça veut dire dans les congés qui sont pris au cours de la carrière. Donc, c'est pas le fardeau de prendre congé, d'avoir donc moins des salaires élevés et moins d'heures travaillées, n'incombe pas seulement aux femmes. Alors, le Conseil du statut de la femme, c'est un organisme qui a fait beaucoup pour les femmes et qui continue d'ailleurs à faire. C'est un engagement. Après ça, j'ai été nommée diplomate à Mexico, donc déléguée générale du Québec à Mexico. Le Québec a une politique de relations étrangères, de relations externes, en utilisant la théorie de Paul Gérin-Lajoie, qui disait que tout ce qui est de compétence au Québec... tout ce qui est de compétence du Québec au Québec et de compétence du Québec à l'extérieur du Québec. Alors, avec cette théorie, là, ce qu'on appelle la théorie de Paul Gérin-Lajoie, le Québec a mis sur pied un réseau de représentations diplomatiques à l'étranger et le Mexique est une des représentations générales, donc des grandes représentations. Il y en a à peu près, des délégations générales, il doit y en avoir à peu près 8 ou 9, et le Mexique était une de celles-là. Ben, là, c'est vraiment un travail de représentation du Québec, représenter les intérêts du Québec, mais représenter aussi les artistes, les gens d'affaires, les entreprises, les universités. Les universités ont un grand rôle de relations internationales à jouer. On recevait énormément d'universités, dont l'Université de Sherbrooke. Mais les autres universités du Québec sont très, très, très présentes au Mexique. On a beaucoup d'échanges et, bien sûr, beaucoup d'échanges économiques aussi, notamment à cause de l'ALENA 2.0, une nouvelle entente économique. Donc, beaucoup d'entreprises qui viennent ou s'établir au Mexique ou vendre, parce qu'il n'y a pas de barrière tarifaire, donc vendre des produits au Mexique, c'est un marché très, très intéressant.
Mm-hmm. Donc, en 2021, il se passe un événement marquant en droit des femmes, plus précisément, en fait, la reprise du pouvoir des talibans en Afghanistan. Donc, la situation des femmes se détériore. Elles ne peuvent plus poursuivre leurs études. Plusieurs emplois leur sont interdits de pratiquer. Elles sont obligées de se couvrir le visage aussi en public. Donc, ayant grandement milité pour le droit des femmes et l'accès à la scolarité en Afrique ou en Haïti, comment vous sentez-vous face un peu à cette régression des droits des femmes en Afghanistan?
Ça me rend malade. Je vous dire, faut pas que j'y pense tous les jours parce que ça m'empêche d'être bien heureuse parce que, encore une fois, le droit des femmes est toujours très fragile. Et c'est pas seulement en Afghanistan, on peut le voir en Iran aussi, mais le droit des femmes est très fragile et c'est pour ça que je me bats beaucoup encore pour la reconnaissance du droit des femmes à l'égalité. Et imaginez ces pauvres femmes qui ne peuvent plus sortir sans être couvertes, donc, puis qu'elles n'ont plus accès à l'université, n'ont plus accès aux études secondaires et qui sont emprisonnées non seulement dans leur maison, mais dans leur corps d'une certaine façon. C'est une injustice sans nom. Et je ne sais pas, j'avais vu que le gouvernement du Canada avait fait une exception sur la loi, ou en fait sur les politiques parce qu'on ne peut pas aider les pays avec lesquels on n'a pas de relations diplomatiques. Donc, comme le Canada a coupé les relations diplomatiques avec l'Afghanistan, il semble-t-il qu'on ne pouvait pas continuer nos programmes d'aide. Et là, j'avais vu qu'il pouvait y avoir des changements. Je ne sais pas si ça s'est réalisé, mais au moins... si on pouvait avoir des programmes d'aide directement aux femmes, ce serait déjà ça. Mais quand on dit que le droit des femmes à l'égalité est fragile, on ne peut pas se permettre ici de baisser les bras puis dire « Ah, oh, c'est pas grave. Ah, oh, c'est pas grave, le droit des femmes. » Et moi, je suis une profonde laïciste. Je suis en faveur de la séparation du religieux et de l'État. Et liberté de religion et la religion, malheureusement, surtout quand c'est étatique, comme c'est le cas en Afghanistan, ben c'est une menace aux droits des femmes à l'égalité. Alors, et tant qu'on n'aura pas compris ça, qu'on pense que la religion, c'est pas menaçant pour les femmes, dans l'État, je parle pas dans le privé, chez vous... mais dans l'État, la religion, quand on mêle l'État et le religieux, c'est sûr que les premiers à payer le prix, les premières, ce sont les femmes. Et les femmes en Afghanistan, on le voit, puis en Iran aussi.
Mm. Donc, ça en vient à ma prochaine question. En fait, on parle de la fragilité du droit des femmes et de l'égalité. Vous avez parlé ensuite de la séparation du religieux pour l'État. Pour l'État, par exemple, mais selon vous, c'est quoi les meilleurs moyens alors pour faire reconnaître davantage le droit des femmes en Amérique du Nord ou au Québec? Ou, pas nécessairement étatique, mais ça peut être aussi dans la sphère privée de la ville.
Bien, écoutez, un des gros problèmes qu'on a ici, c'est la violence faite aux femmes. Mm. Et pas seulement au Québec, au Canada, ce qu'on appelle les féminicides. Alors, c'est l'éducation. Tant qu'on n'aura pas éduqué nos garçons à ce que le corps des femmes n'appartient pas à personne d'autre qu'aux femmes et que la relation qu'on entretient avec une femme, ce n'est pas de posséder son corps et de la posséder, c'est des rapports de domination, malheureusement. C'est encore trop présent. Et je vous dirais que la pornographie et l'hypersexualisation de l'espace public favorisent la banalisation de la violence faite aux femmes.
Mm-hmm.
Et ça, ça vient me chercher beaucoup parce que au Québec, la violence faite aux femmes, c'est une réalité très, très importante. Puis on l'a encore vu encore plus durant la pandémie parce que les femmes étaient isolées chez elles. Et les maisons d'hébergement pour femmes n'ont pas suffi. Elles ont eu du mal. Et il y a eu beaucoup de féminicides, donc des meurtres de femmes juste parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles ont décidé de mettre fin à une relation toxique avec un conjoint. Elles se font tuer juste parce qu'elles sont des femmes.
Mm-hmm.
Alors ça, c'est préoccupant. Et la clé de ça, c'est l'éducation. Et l'éducation très, très jeune. Et l'éducation des garçons, mais l'éducation auprès des filles aussi, pour qu'elles comprennent qu'elles n'ont pas à subir ces violences... les violences sexuelles, les violences sexistes, les violences physiques
mm-hmm.
qu'elles subissent. Je pense que pour le Canada, c'est le plus gros fléau. C'est probablement l'incarnation de la réelle inégalité entre les sexes. C'est la violence faite aux femmes.
Mm-hmm.
Sur ces paroles troublantes, vous soulevez à juste titre l'importance de l'éducation. Et à cette fin, je pense que il est toujours pertinent de savoir de quel genre d'éducation on parle, vu que vous l'avez mentionné tout à l'heure, il est parfois question des conflits de valeurs, des conflits de vision qui viennent notamment avec, ma foi, certaines valeurs qui peuvent être incompatibles avec le respect de l'égalité homme-femme. On pensera à certaines valeurs religieuses, certaines valeurs culturelles. Votre propos poignant, nécessaire, ramène d'après moi en pleine lumière le besoin criant d'une éducation nationale vers une égalité véritable entre les hommes et les femmes. Et l'éducation, ce n'est pas qu'une affaire de société, c'est aussi une affaire d'individu. Et ce qui m'amène, après cette petite parenthèse pour souligner vos accomplissements, à revenir vers Christiane Pelcha, l'étudiante. Vous êtes aujourd'hui étudiante aux études supérieures à l'Université de Sherbrooke. Dites-nous, pourquoi avez-vous choisi de retourner aux études?
En fait, c'est je représente devant les tribunaux pour défendre la validité de la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État. Je représente un groupe de femmes qui vient dire à la Cour que la loi telle qu'elle est rédigée, c'est une loi qui favorise l'égalité entre les femmes et les hommes et qui favorise la protection de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je me suis rendu compte qu'intellectuellement, j'avais envie de pousser la réflexion un peu plus loin que seulement sur le côté pratique du droit. Alors, voilà, donc j'ai décidé de faire une maîtrise sur justement l'état du droit à l'égalité entre les femmes et les hommes en droit canadien et en droit québécois.
C'est impressionnant, tout comme le reste de votre carrière. Dites-nous, Maître Pelcha, connaissant ce que vous savez aujourd'hui et par votre expérience, maintenant, avec le recul, si vous regardez derrière vous, auriez-vous, et qu'est-ce que vous auriez fait le cas échéant, mais auriez-vous fait quelque chose de différent dans votre carrière, dans votre parcours?
Non.
C'est une réponse honnête.
Non, parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ce que j'ai fait. dans le passé.
Profond.
Donc, si j'ai toutes ces connaissances-là, ma carrière, ma première carrière a été, je dirais, avant d'être députée, j'ai été journaliste dans les journaux, pour les journaux locaux. Puis après ça, j'ai été députée. C'est ça qui a été le socle de mon engagement féministe et de mon engagement humain aussi. Et c'est grâce à ça que j'ai, bon, que j'ai fait toutes les choses que j'ai faites. Mon engagement à l'international, à l'étranger, en Afrique de l'Ouest, m'a amené à découvrir des cultures, des êtres humains très différents, mais combien extraordinaires et qui m'enrichissent encore. J'ai encore beaucoup d'amis au Sénégal. J'ai des amis au Niger, j'ai des amis au Burkina, j'ai des amis un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et c'est grâce à ces expériences-là que je suis ici aujourd'hui avec vous et que je pense comme je pense aujourd'hui. Alors non, je ferais exactement le même parcours pour être, parce que je suis bien dans ma peau et j'aime ce que je suis, j'aime ce que je fais. Mmh. Alors, pour être ici avec vous et apprécier ce beau moment, ben, je suis contente d'avoir vécu toutes ces expériences antérieures.
Parole de sagesse.
Oui. Donc, précédemment aussi, vous aviez parlé de votre expérience au Sénégal, comment vous l'aviez trouvée enrichissante, puis vous aviez parlé aussi que vous avez encore des personnes avec qui vous communiquez en Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Mais j'ai aussi pu... écouté une interview avec vous. Je me rappelle plus exactement c'était quand, mais vous avez parlé aussi que vous aviez vraiment un coup de cœur pour Haïti.
Oui.
Et puis,
oui.
Vous y retournez souvent.
Oui. Bien là, on n'a pas le droit d'y aller, mais je préside une fondation qui porte le nom de mon défunt mari, Serge Marcel, la Fondation Serge Marcel, et on s'occupe d'un orphelinat d'une quarantaine d'enfants, et dont certains enfants aujourd'hui sont grands, qui sont autonomes. Mais alors, donc, je suis en contact à chaque semaine avec des enfants, des religieuses en Haïti. Et j'ai fait aussi, avec la coopération canadienne, j'ai formé aussi des femmes et des hommes élus municipaux, justement sur l'égalité entre les sexes dans l'exercice du pouvoir municipal, comment prendre en compte les besoins des femmes dans des communautés, comment respecter les femmes conseillères municipales, etc., les relations entre hommes et femmes. Mais aussi, à Haïti, ben, j'ai 34 timounes, c'est comme ça qu'on les appelle, les enfants, dont on s'occupe, la Fondation Serge Marcel, et c'est un projet qui me tient à cœur. C'est sûr qu'en ce moment, à cause de la situation en Haïti, on ne peut pas y aller. En ce moment, c'est trop dangereux. Mais je reste en contact avec eux, avec elles. Mais c'est difficile en ce moment. J'ai 4 grands-enfants, des adultes maintenant, qui ont gradué en agronomie. Alors, mais ils ne peuvent pas travailler parce que les projets, tout est à terre en ce moment avec le banditisme et l'État qui ne fonctionne pas en Haïti. J'ai un garçon qui a fait son cours de forgeron, qui est extraordinaire, il a un talent fou. Il a fait tout le grillage de l'orphelinat, le grillage du couvent, il est vraiment très habile. Il a fait un cours en génie mécanique, en électricité, pardon. Mais il n'y a pas de travail. Mm. Et il me disait qu'on avait même une orpheline qui avait besoin d'un lit parce qu'elle est retournée vivre chez son grand-père, arrière-grand-père, mais son grand-père. Et elle n'avait pas de lit. Puis elle disait à une religieuse, c'est difficile parce que la nuit, les rats lui passent sur le corps. Fait que j'ai dit, oui, mais faut lui donner un lit. J'ai dit, demandez à Emmanuel, notre forgeron, de faire un lit. Je vais envoyer l'argent. Elle m'a dit, mais madame, il n'y a pas de gaz pour alimenter la génératrice. Et le port est bloqué, alors on n'a pas accès à de l'essence ni du gasoil pour alimenter la... Alors vous voyez comment, nous, on ne se rend pas compte de ça. Finalement, on a trouvé un vieux lit de bois pour la petite. Et bon, semble-t-il qu'elle est bien contente parce que les rats passent sous son lit et non pas sur elle. Mais Emmanuel me disait qu'il n'y a pas de travail, ils n'ont pas de contrat. Il dit, je me suis rabattue sur l'agronomie, l'agriculture, mais ça faisait 8 mois qu'il ne pleuvait pas en Haïti.
Ah ouais.
Alors, toutes les réserves d'eau sont à sec. Alors, la détresse des femmes et des hommes en Haïti, on ne la voit pas, nous. On lit les journaux un peu, on ne la voit pas. Moi, je parle à ces gens-là quotidiennement, ou en tout cas à toutes les semaines plutôt, et je la sens, la détresse, et c'est pas simple. Alors, effectivement. Mais j'espère que le Canada, bon, avec l'argent qu'on a dit qu'on enverrait pour renforcer la police nationale, si ça peut aider à mettre un frein au banditisme, à améliorer la circulation des personnes et des biens dans le pays, ben ça va être déjà ça de prix.
Merci. Donc, si vous ne vous y opposez pas, je vais conclure cet épisode. Donc, merci beaucoup, Maître Pelcha, d'avoir pris le temps. Vous étiez à une conférence ici précédemment. Merci beaucoup pour ça. Merci pour vos réponses. Merci aussi à tous nos auditeurs. Donc, vous venez d'écouter le balado Affaires d'État des collines au tribunal. Je suis Léa et je suis accompagnée de Maître Côté, chargée de cours à forfait au programme de droits et politiques appliquées de l'État, que je remercie également. Nous espérons que vous avez apprécié ce sixième épisode avec Maître Christiane Pelcha, politicienne, avocate, féministe et étudiante aux études supérieures, que nous remercions de nouveau. Pour obtenir plus d'informations sur ce balado ou sur le programme de droits et politiques appliquées de l'État, vous pouvez consulter le site Internet de l'Université de Sherbrooke. Donc, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à tous.